Le seul endroit où j'ai toujours été heureuse, c'est quand j'étais sur scène. Avant, après, jamais.
Actrice, humoriste, chanteuse et désormais écrivaine, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Lelouch au micro d'InPower.
En fait, le travail, ça doit pas se voir.
Ça te fait pas peur, le sommet ?
Les gens étaient vraiment présents et je pensais qu'ils m'aimaient. Tout le monde a disparu. Ça m'a tellement fait de la peine.
Il y a des blessures dont on ne guérit jamais. Camille s'ouvre sur les violences qu'elle a subies à l'adolescence.
Ah, tu morfles un peu. Je rencontre ce mec. Et 4 mois après, je perds 15 kilos.
Comment on remonte la pente ?
C'est dégueulasse. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je me souviens avoir dit à un proche, je sais pas pourquoi, je sens que c'est lui.
Comment on aime de la bonne manière ?
Qu'est-ce que j'aurais fait sans elle ? On t'aimera jamais comme un enfant peut t'aimer. Jamais.
Comment se reconstruire ? Comment réussir à aimer à nouveau ? Quels enseignements souhaite-t-elle transmettre à sa fille ?
Tout a toujours été décuplé. Donc quand j'étais triste, j'étais terriblement triste. Et c'est vrai que je les faisais souffrir. Parce que j'étais tellement malheureuse. Tous les 15 jours, j'avais des angines blanches, parce qu'en fait, mon foie, il pourrissait, quoi, très clairement.
Comment t'es sortie de l'alcoolisme ?
Ça, c'était le jour le plus sombre de ma vie.
Qu'est-ce que t'aurais fait si ta maman avait pas été là ?
Je sais pas si j'aurais fait, déjà.
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Camille Lelouch. L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes d'InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront voilà, le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute ! Bonjour Camille !
Bonjour !
Bienvenue sur InPower.
Merci de m'inviter.
Je suis très contente de te recevoir. J'aime beaucoup recevoir en fait des personnes qu'on connaît sans vraiment les connaître. Et j'ai l'impression que tu fais partie de ces personnes-là. Donc la première question, écoute, que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Alors je me présente, je m'appelle Camille Lelouch et je suis une artiste. Voilà, c'est mon métier. Ça regroupe tout ce que je fais. Sinon, ça fait beaucoup. Même si c'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais ça peut paraître... Hélas, prétentieux pour certains, mais pourtant, ce sont mes métiers. Quoi. Donc, je peux te les énumérer, mais...
Non, mais artiste, j'aime bien. Quelle image tu te faisais de l'artiste quand t'étais jeune ? Non pas que tu sois vieille, quand t'étais enfant.
Non, non, tu veux dire quand j'étais plus jeune.
Ouais. Voilà.
La même que celle d'aujourd'hui. Pour moi, un artiste ou une artiste, c'est quelqu'un qui sait faire plein de choses dans ses domaines. C'est-à-dire, donc là, pour le coup, la musique, l'humour, le cinéma, mais pour d'autres, c'est la peinture, la sculpture, la danse, voilà.
Qu'est-ce qui te faisait rêver là-dedans ?
Le fait de s'exprimer par un autre moyen que juste, parler à quelqu'un, le fait d'exprimer différemment. De toute façon, je ne savais pas. Je suis quelqu'un qui ne sait pas trop parler en exprimant mes émotions sans avoir une émotion. Donc, ça tombe bien, puisque je le fais en chantant, en riant. Ouais.
Et en chantant, t'as pas d'émotion ?
Ah si, justement.
T'as besoin d'avoir une émotion pour pouvoir l'exprimer.
Oui, c'est ça. Exactement.
Et alors, comment tu faisais quand t'étais enfant ? Comment t'as réalisé, en fait, que c'était ce moyen d'expression qui te permettait de partager tes émotions ?
Je sais pas vraiment. Je sais que, en tout cas, dès que j'étais pas bien, j'allais me mettre à mon piano et soit je jouais uniquement, soit j'essayais de composer des chansons. Bon. Qui n'était pas fameuse à l'époque.
Est-ce le but ?
Bah oui, bon, nous on a l'impression, hein, mais c'est vrai que c'était pas dingue. Oui, je pense que, en tout cas, mes souffrances, je les exprimais déjà en musique.
Moi, il y a une phrase qui m'a interpellée au début de ton livre. Seul le mental compte à ce moment-là. Le mien est en acier, il me fait résister. Qu'est-ce qui fait que t'as un mental en acier ?
J'écris ça, moi.
Oui.
Oui, 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 je pense que j'ai un mental assez solide, sinon je pense pas que je serais là... aussi apaisé et bien. Là, je pense que la vraie force, la vraie chance que j'ai eue, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'amour de mes proches et de ma mère, surtout. J'ai la chance de pouvoir être aimée comme un enfant doit l'être, au départ, parce que je suis... Pour ma mère, je suis toujours sa petite fille. Hein. Et je pense que c'est ça. Et puis aussi, le fait que je sais tout ce que j'ai parcouru et je sais tout encore aujourd'hui ce que je parcours. Hein. C'est jamais acquis, hein. Et dans l'intimité, et dans les problèmes que j'ai eus, et dans le travail. Enfin, c'est toujours très très long, il y a toujours des choses à... Voilà, il faut encore que je me prouve à moi-même, parce qu'en fait, je pense pas que j'ai encore des choses à prouver aux gens, parce que je le montre assez, mais à moi-même en tout cas. J'ai des choses à me prouver encore. J'ai pas vraiment répondu à la question, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Un peu,
Mais déjà, c'est lié au fait que tu veux te prouver. Non, mais c'est lié au fait que tu as encore des choses à te prouver, je pense. Parce En fait, c'est une exigence.
Ouais, ouais. C'est un peu trop, peut-être.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux te prouver encore ?
Que je suis capable de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que ce sont les domaines que j'aime particulièrement. Tu vois, chanter, je répète, hein, le cinéma, etc. Mais je vais aller au sommet de ça.
Ça te fait pas peur, le sommet ?
Ça me fait peur, mais tant que En fait, quand j'y arrive, il ne faut pas que je redescende parce que j'ai le vertige, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, non, ça ne me fait pas peur. C'est le principe d'un sommet, c'est d'y aller. C'est un peu long, tu peux y rester. Mais si tu n'essayes pas...
Tu n'y arriveras jamais. Quoi.
Exactement, tu ne sauras même pas si tu peux y arriver. Quoi.
Tu penses qu'on est plus heureux au sommet ?
Non, je ne pense pas qu'on est plus heureux, mais en tout cas, ça me confortera dans l'idée que si je veux vraiment quelque chose, bah, j'y arrive, quoi, malgré la peine que ça peut causer parfois. Parce que c'est quand même, ce sont des métiers où c'est plus de souffrance avant le plaisir que de plaisir avant le plaisir.
Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que finalement la peine était prenait une place aussi importante dans ton métier ? Parce qu'on ne se l'imagine pas avant de commencer, je trouve. Oh bah on voit que les paillettes et tu vois.
C'est même pas les paillettes, c'est qu'en fait, à la base, on veut faire ce métier déjà qui est dur. Pour exprimer nos émotions et on ne sait pas comment faire autrement. Pour ma part, c'est ça. Je ne me voyais pas déjà être autre chose que chanteuse. Bon, c'est passé, et aussi actrice, mais en tout cas humoriste, pas du tout au départ. Et c'est vrai que quand ça arrive, tu dis juste je vais être heureuse de faire ce que j'aime sur scène. Et au final, tu te rends compte que ce sont des métiers magnifiques, mais que le milieu est différent. Et c'est toujours très troublant de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de fausseté, de lâcheté, de mensonges, de déception, et moi je suis une hypersensible, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué, bouleversé. C'est pour ça que d'ailleurs mon cocon résume à mon mari, ma fille, et mes très proches depuis toujours, mes amis très proches et ma famille proche, mais en tout cas mon cocon c'est mon mari, ma fille.
C'était quoi ta première désillusion ?
Quand je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple en humour, moi j'ai vraiment... mon premier spectacle, il a cartonné. Hein. C'est la première fois qu'en France, une femme avec son premier spectacle fait les Zéniths, etc. Donc c'était assez fou pour moi, et merveilleux. Et c'est vrai que les gens étaient vraiment présents, et je pensais qu'ils m'aimaient pour moi, pas l'artiste forcément, parce qu'évidemment qu'en tant qu'artiste, t'as envie d'être apprécié, hein, surtout de d'autres artistes. Pour moi, c'est normal, parce que moi, j'admire les artistes. Hein. Et c'est vrai quand tu te rends compte que d'un coup, je suis partie en musique, ce que personne fait. Normalement, quand tu cartonnes, tu continues là où tu cartonnes. Mais comme j'aime pas la facilité et que j'avais entendu quand même 20 ans pour faire ce premier album, je me suis dit tu vas pas le faire à 60 ans. Donc tout le monde a disparu. Donc c'est rigolo. Bon, enfin, on se recroise pour beaucoup, mais en fait, moi je suis une grande fidèle, et en amour et en amitié. Et quand je te dis que je t'aime et que t'es mon ami, c'est que t'es vraiment mon ami. Et peu importe que tu sois artiste, pas artiste, connu, pas connu. Et quand tu te rends compte qu'en fait, les trois quarts des gens dans ce milieu, et puis même dans la vie, hein, ne sont pas comme ça. C'est très décevant quand t'es quelqu'un de sensible. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a bouleversé, ouais.
Que l'amour soit conditionnel de ton statut social.
Ouais, puis que les gens arrivent à faire semblant. Ça me fait vraiment, vraiment du mal.
Ouais.
Je savais pas que... En fait, si on m'avait prévenu avant, j'aurais peut-être gagné du temps, tu vois, dans plein de domaines. Après, j'ai du mal, hein, à faire semblant, ça se voit très vite. Hein.
Et pourtant, t'es actrice. C'est ça
qui
est fou.
Oui, mais c'est un autre exercice quand même. Si tu vas chercher et tu vas surtout incarner quelqu'un, un personnage, là, faire semblant d'être toi-même avec les gens, c'est culotté, déjà, je trouve. Et surtout, en regardant droit dans les yeux quelqu'un, elle dit « Ouais, je t'aime, t'es mon ami. » Et penser le contraire, enfin, je trouve ça...
Je suis totalement d'accord avec toi. Ma théorie, c'est qu'en fait, ces gens-là ne font pas semblant. C'est que j'ai remarqué qu'il y avait une catégorie de personnes qui n'étaient pas les mêmes en fonction des personnes avec qui ils étaient.
Donc tu vois ce que je veux dire ou pas ?
En fait, je pense que c'est des gens qui ont plusieurs personnalités, entre guillemets, tu vois.
Non, mais t'es gentil, trop gentil. Ouais. Moi, je pense que c'est des connards.
C'est vrai.
Bien
aussi.
En régime. Non, c'est même pas des connards. En vrai, je te dis ça pour la vanne, évidemment, il en faut toujours une, mais je pense que...
Enfin, tu vois, je pense qu'au moment où il te parlait, il se disait pas « il faut que je me la mette dans la poche ». Il se disait qu'en fait, ce que tu renvoyais, c'était désirable. Et donc, il voulait être vu avec toi.
Oui, voilà, exactement.
Et qu'au moment où tu l'es moins, ils se disent pas « je l'aime plus ». Ils se disent juste « en fait, finalement, elle m'apporte plus rien ». Enfin, c'est une vision, je pense,
mais donc,
très...
c'est pas du tout des sentiments d'amour ou des sentiments sains. C'est des sentiments... Non, c'est des connards, non, je m'en tiens.
Ouais, non, mais comme tu dis, pour moi, je vois vraiment le côté conditionnel qui ne devrait pas faire partie de l'amitié, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Une conditionnalité, on t'aime pour qui t'es et pas pour ce que tu représentes, quoi.
Mais ce qui est cool, c'est que c'est toujours les mêmes personnes après qui reviennent quand ils sont là où tu veux. Mmh. Et là où tu veux être, pardon, mais au moment où ils pensent que c'est bien pour eux.
Mais quand tu dis que t'étais... qu'il n'y avait plus personne, c'est pourquoi ? Parce que t'as connu une chute ?
Bah, pas une chute, mais en tout cas, quand il n'y a plus... Enfin, dans l'humour, j'ai... Enfin, comme je suis partie en musique, du coup, l'humour, j'ai stoppé d'un coup, quoi. Et c'est vrai que...
Il a fallu repartir de zéro, entre guillemets, bah, jamais
pour
vraiment
pour
zéro.
Les gens, pour les gens, ils me découvraient en tant que chanteuse, alors que c'est mon premier métier, donc c'est très troublant pour moi, déjà, ça, au départ. Et surtout, derrière, il faut tout construire pour travailler ça. Pour dire, je suis chanteuse... c'est la France, hein. C'est comme ça. Et c'est ce que j'essaye de fédérer. C'est-à-dire que pour moi, on est artiste. Tous les artistes, dans n'importe quel pays, mais même en France, savent faire plein de choses.
Oui.
Il saura soit peindre, et en même temps, il chantonnera. Tu vas dire, ah, il chante juste. Enfin, c'est un truc qu'il faut savoir. Mm. C'est comme un médecin, il sait forcément faire un vaccin. Enfin, un chirurgien, pardon, il saura faire un vaccin et recoudre une plaie, je ne sais pas comment dire. C'est
polyvalent, quoi.
Voilà, exactement. Mm. En fait, c'est comme ça. Ce sont des cerveaux différents. Mais j'ai été... alors, comme tu dis, peut-être que c'est pas un truc qui m'aime pas, mais ce sont des gens qui sont là quand même pour la gloire.
Ouais.
Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que quand je vais revenir en humour, parce que... Ça peut rassurer certains, je ne suis pas partie. Hein. J'ai juste fait une pause musicale. J'espère qu'ils ne reviendront pas, parce que sinon, de toute façon, dans tous les cas, je...
Tu leur ouvriras pas la porte.
Jamais. C'est pas de la rancune, c'est juste...
C'est un principe, ouais.
C'est un principe de... Même, je me suis... j'ai tellement donné, et maintenant, je suis dans... Enfin, j'ai même pas besoin d'eux. Et c'est juste que quand j'ai... Surtout quand j'aimais très fort, c'est comme, tu sais, une fin de relation en couple, c'est terminé. Mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Hein. Moi, je peux rire avec eux et aller au resto avec eux. Enfin, tu vois, si on se croise, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas des gens que je veux fréquenter.
C'est une question que je me suis posée en lisant ton livre. Tu parles du fait que ça a été difficile pour toi d'avoir des relations avec des hommes, notamment après ce premier partenaire violent.
Ah oui.
C'était quoi ta vie amoureuse, en fait, après eux et avant B, qui sont du coup les initiales que tu partages dans le livre?
C'est une bonne question qu'on m'a jamais posée, mais il n'y en avait pas. Je ne peux pas appeler ça des relations amoureuses.
T'appellerais ça comment?
Bah, déjà essayer d'avoir une relation. La relation que j'ai eue avant mon mari, ça a duré 3 ans. Non, c'est quelqu'un que je respecte. Hein. Et je pense que j'ai beaucoup aimé, mais pas de la bonne manière. Je pense que ça a dû aussi lui faire du mal. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, donc il n'y avait pas un truc de je veux voir ailleurs ou quoi. J'ai pas ces trucs-là. Mais je pense que je ne l'ai pas aimé comme il fallait pour lui. Fin...
Comment on aime de la bonne manière ?
Bah, quand on donne déjà à l'autre ce qu'il veut, hein, c'est dans les deux sens. Mais quand t'arrives pas, même dans l'intimité, etc., c'est quand même... je pense que ça frustre et ça fait de la peine à la personne qui est en face. On vit tous ça. Donc voilà, c'est la seule relation qui a été, entre guillemets, saine, mais qui n'était pas suffisante et pour lui et pour moi.
Ouais.
C'est normal, j'arrivais pas. Ouais. J'essayais, je croyais, mais comme c'était... bien, il n'y avait pas de haine, il n'y a pas de violence, il n'y avait pas tout ça. Pour moi, c'était ça, l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas parce que tu as une relation entre guillemets normale que ça veut dire que c'est ça l'amour également. Donc ça, tu le comprends aussi quand tu te soignes.
Comment tu t'es soignée ?
Moi seule. Hein. Non, au début, très jeune. Non, j'ai vu un psy ou deux. Je ne sais même plus. Mais après, non, seule. Enfin, seule avec mon art. C'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de choses à dire, je pense. Que ce soit avec le livre, ouais. Ou que ce soit avec la musique, ou que ce soit en humour. J'en ai parlé dans tous les domaines. Je ne me suis pas encore exprimée sur la violence au cinéma. Mmh. Je voulais jouer d'ailleurs mon propre rôle, mais je ne sais pas si j'y arriverai, je ne sais pas si je sortirai indemne de ça. Donc je réfléchis si je joue mon propre rôle et qu'une réalisatrice ou un réalisateur...
Andrea Biscon, que j'ai reçu sur InPower, qui est vraiment phénoménal. Je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment
cette
personne travailler avec toi.
Ah ouais, c'est gentil, bah, faudrait lui demander. Soit ça, et on arrive à me diriger... je sais pas, il faudrait quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que si c'est moi, ça veut dire que je me serais exprimée de toutes les manières.
C'est sûr.
J'aurais fait mon deuil de tout, mais bon, le corps, je pense, c'est ce qu'il y a de plus violent. Donc bon, on verra. Mmh. Andrea.
Elle nous écoute, j'en suis sûre.
Voilà. Elle nous écoute.
Et si jamais cette relation que tu as eue avant là, celle avec ton mari, c'était la seule, on va dire, saine, elle ressemblait à quoi les autres ? Et pourquoi tu penses que tu n'arrivais pas à nouer des liens amoureux ? Est-ce que rétrospectivement, maintenant, tu sais pourquoi ?
Je réfléchis, les autres, il n'y en a pas eu.
Mais du coup, tu étais célib quoi, de 20 à 30 ? Et non, fine, j'ai rencontré... Enfin, moi, je trouve ça très bien de le dire aussi.
Non, j'ai fait des rencontres quand même. Hein. Ouais. Ouais, j'ai fait quand même des rencontres, oui.
Et pourquoi ça n'aboutissait pas
Fait, j'étais déjà... je pense que j'étais tellement malheureuse que j'en devenais méchante. Je pense que j'ai rencontré des garçons... En fait, comme il n'y avait pas forcément un truc qui me plaisait au premier abord, qui me révulsait, mais je pense que de par mon traumatisme, bah, j'étais pas très gentille. Et c'est fou d'ailleurs, ils aimaient bien se dire, putain, elle est pas très gentille. En fait, je te parle pas bien, en fait, donc tu devrais pas avoir envie de parler avec moi. Mais il y avait rien, c'était pas une vraie relation, quoi. C'était de la découverte. J'étais pas. Je faisais des restos, je me disais, oh là là, va me faire chier, là. Et du coup, ça se voyait. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, j'étais pas délicate. Parce que peut-être que c'était inconsciemment une vengeance, mais bon, il y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y en a pas eu beaucoup. Et puis, de toute façon, déjà, je voulais pas qu'on me touche. Donc, déjà, ça réduit le fait d'avoir une relation. Et puis, on était quand même entre 20 et 30 ans, une époque, enfin, tout le monde veut se rencontrer pour avoir des rapports sexuels. C'est pas vraiment des relations que les gens veulent au premier abord. Et moi, je suis un peu une romantique, je suis en mode, non, d'abord, aller au restaurant. Tu vois, et du coup. C'est au resto, en vrai, c'est en parlant aux gens, pour moi, que tu te rends un peu compte de ce qui peut se passer. Mmh. Ou s'il y a même une attirance, ou ce genre de choses. Pas au resto, mais en tout cas, boire un verre, ou parler avec la personne. Ou sinon, il faut être déchiré, et tu te souviens pas de ce qui s'est passé. Ce qui peut arriver aussi, mais... Non, c'est... J'ai vraiment... C'est d'ailleurs, tu me mets face à ma réalité. C'est que j'ai pas eu de vraie relation, non.
T'étais pas émotionnellement disponible?
Non, jamais. C'est la première fois que je sens que je suis connectée vraiment à quelqu'un absolument et que j'aime comme ma moitié. Vraiment, hein, que je sens qu'il y a un truc. C'est-à-dire, on pourrait même... il pourrait partir 3 mois genre parce qu'il a envie de voyager ou je sais pas. Je sais que... on n'a aucun problème. On s'aime très... En fait, c'est très sain. Parce que tout n'est pas basé sur de l'attirance ou ce genre de choses. On est sur un rapport de confiance déjà absolu. Et on communique, et il y a un truc très sain de... On se dit vraiment les choses, surtout lui, comme du coup, par rapport à mes métiers, il va pas me dire... il va pas prendre des gants, comme quand on parle à un artiste, comme un réalisateur, ou comme voilà. Donc j'ai envie de lui dire, non, tu parles à l'artiste ou à ta meuf, là, en fait. Et souvent, c'est un peu cash, mais en vrai, c'est ce qui me fait du bien. J'ai besoin de ça, moi. Faut pas trop qu'on me caresse dans le sens du poil, sinon je... Je peux rester dans mon lit comme ça pendant 3 jours et... Non, j'ai besoin de quelqu'un qui me secoue quand même.
Ça t'a fait peur quand tu as réalisé que tu l'aimais et que c'est finalement la première personne que t'aimais de cet amour-là?
Alors en fait, c'est très étrange, mais ça va paraître très cliché, mais quand je l'ai rencontré, tout de suite, je me suis dit... Je le connais depuis longtemps. Enfin, c'est bizarre, il y a un truc hyper naturel dans notre... juste la manière dont on se parle, c'est hyper sain en fait. On se parle plus comme un couple qui a déjà été ensemble que comme un début de relation ou... Il n'y a pas ce truc trop de... Il y avait la séduction un peu, mais c'était pas l'essentiel. Je sais pas comment dire, c'est trop bizarre à expliquer. Et je me souviens avoir dit à un proche, je sais pas pourquoi je sens que c'est lui. Alors que c'était pas la période, c'était pas du tout le moment de rien, en fait. Je voulais déjà pas être en couple, enfin je voulais...
Mais ça, je trouve ça... C'est bizarre. Intriguant.
Ouais, c'est très intriguant, parce que quand les gens te le racontent, tu es en mode, oh, ça va, ouais.
Non, mais pas tellement le fait que tu aies eu l'impression de le connaître, parce que ça, je pense que ça existe vraiment, mais le fait que tu ne souhaitais pas être en couple. Je veux dire, c'est tellement une injonction de la société de se caser et de, comme tu dis, rencontrer une moitié, que ça m'interpelle que toi, tu n'aspirais pas à ça.
Oui, sachant qu'en plus, j'étais pas... J'avais 35 ans, quoi. Donc, tu vois, c'est un âge où t'as...
Tu voyais tous tes potes se mettre en couple.
Oh bah ouais, ça faisait longtemps. Moi, ma meilleure amie, on est amies de 26 ans. Donc, elle a 2 enfants qui sont très grands déjà. 13 ans, 14 ans, enfin, je sais plus. Et ma filleule, elle va me dire, mais.
On l'embrasse.
Voilà. Et ma filleule, 10. Bon, je sais même plus. Elle va me tuer. Mais ouais, c'est des grands enfants. Mais tous mes amis ont des enfants. Je suis marraine depuis très longtemps. Ma grande filleule, j'ose même pas en fait. Je crois que ça m'angoisse. 14 ans, 13 ans. Bon, je sais plus. Non. Et en tout cas, oui, mes amis ont eu des enfants depuis très longtemps, à 25, 26 ans. Et moi, j'avais trop de choses à régler. Hein.
Qu'est-ce que tu avais à régler?
Tout, avec moi-même, avec le rapport à mon corps, au traumatisme, ben, tout ça, quoi. Déjà, moi-même, pour me toucher, juste me prendre par les épaules ou quoi, c'est déjà tout ça. Moi, j'adore prendre les gens dans les bras. J'adore leur faire des câlins. J'adore, moi, en tout cas, avoir ça. Mais quand on me le fait, ça dépend qui. Par exemple, mon petit frère, ça va. Mon mec, ça va. ma fille, elle peut me sauter sur la tête, il n'y a aucun problème. Mais ma maman, par exemple, qui est quand même C'est l'amour de ma vie, hein. Y a ma fille, y a ma mère. Et bah, c'est vrai que quand elle me prend les bras, je suis un peu... Tu vois, comme une petite fille un peu... Oh. Alors que j'adore, mais c'est bizarre. Et moi, j'adore la prendre moi dans les bras. C'est très bizarre.
Ça a commencé quand, la difficulté avec ton rapport au corps ?
Alors déjà, avant de vivre des violences, moi, j'ai été très, très maigre. Je suis hémétophobe, j'ai la phobie de vomir, donc je me suis fait soigner pour ça. J'ai vraiment vu une psychiatre spécialisée. J'étais très, très maigre et du coup, le fait d'avoir peur de vomir, en fait, ça m'empêchait de manger. Donc j'avais des grosses phases anorexiques où, par exemple, tu vois, un blanc de poulet, je découpais en tout mini-mini parce que le cerveau avait tellement enclenché le truc de si tu manges, tu vomis. Enfin, c'était un enfer. J'étais très, très maigre. J'en parle dans le livre, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier rapport au corps compliqué. Quand j'ai commencé à me sentir mieux, à grossir, etc., à être en bonne santé, quoi, je rencontre ce mec. Et 4 mois après, je perds 15 kilos. Donc je redeviens très maigre. Et là, c'est très dur. Donc, puis par rapport aux mots que j'avais, ouais, je suis avec un squelette. Je veux pas être violente là dans les mots, mais bon, en gros, je couche avec un squelette, enfin, ce genre de choses. Et c'est des choses qui m'ont après marqué. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai moins la phobie. J'adore manger, mon corps le sait. Il n'y a plus de maigreur. Bien loin de ça. Mais ouais, j'ai toujours un rapport à mon corps. Même là, ça fait 17 mois que j'ai accouché. Tu vois, je suis bien dans mon 34, mais en fait, dans mon corps, pas du tout. C'est plus mon corps. J'ai toujours un rapport avec mon corps particulier. Parce que là, pas comme avant. Il y a eu un moment avant la grossesse, avant l'amour, je faisais du sport 5 sur 7. Je mangeais très très bien, mais parce que ça me plaisait. Hein. C'était d'avoir une vie très saine, surtout quand t'as sombré un peu, tu vois, dans l'alcool, ce genre de choses. T'as envie d'avoir un truc très sain. Puis après, tu rencontres l'amour, donc tu grossis forcément. Ça, c'est la première chose.
C'est la première règle.
Ça grossit direct. Y a pas et puis au mauvais endroit, tu vois. Non, mais vraiment, c'est vraiment là. Ça fout la rage, mais c'est vraiment ça. Et puis ensuite, tu vas moins au sport, du coup. Et puis bon, tu tombes enceinte, donc là, moi je faisais pas partie des nanas où tu vas à la salle de sport même quand t'es enceinte, même si je les admire, je trouve ça super. J'étais trop fatiguée, puis je préférais manger. Chacun ses priorités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout la force, pas du tout, alors qu'avant j'étais plutôt motivée, d'y aller au moins 2-3 fois par semaine pour me sentir moins tonique, quoi, tu vois. Et puis j'ai 37 ans, donc il n'y a pas d'excuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même motivation, mais il faut que ça revienne, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui fait que si je suis bien dans mon corps, ça se voit vraiment que je suis bien avec les autres, tu vois. C'est ce qui me rend confiante.
Pourtant, tu partages justement dans le livre que que t'as mis en place une forme de discipline et de rigueur après l'accouchement, où t'as voulu retrouver...
Oui, si je m'y suis remise un peu.
Voilà, tu te dis, voilà, un certain doute. Pourquoi ? Pourquoi tu t'es imposé ça ? Parce que tu vois, de l'extérieur, et c'est carrément, entre guillemets, un préjugé que je vais dire, mais j'avais l'impression que t'étais le genre de meuf, au final... Tu t'en foutais, quoi. T'étais pas du genre à te mettre des règles, des disciplines. Et de lire le livre m'a fait réaliser qu'en fait, t'avais un pattern qui suit toute ta vie. C'est une forme d'exigence qui frôle la psychologie rigidité, disons-le. Hein. Je le dis parce que je le dis aussi, donc tu vois,
il n'y a aucun problème avec ça, c'est vraiment ça. Hein. Mais surtout, il y a cette rigueur déjà parce que dans ces métiers, tu vois, quand t'es sur scène, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut être tonique et il faut avoir du cardio. Il faut pouvoir bouger et chanter en même temps. Ou quand en humour, il faut pouvoir bouger, sortir des vannes sans être essoufflé, sinon c'est pas beau, ça marche pas. Et donc j'avais besoin aussi déjà de perdre déjà mes 17 kilos, hein, que j'ai pas perdu entièrement, mais en tout cas, il fallait que je perde ça. Et je reprenais le travail 10 jours après. Donc aussi, il y a ça qui m'a marqué parce que j'ai vu mon postpartum à la télé, quoi. C'est-à-dire que je me suis vue encore avec mes 17 kilos après l'accouchement, mon eau toute gonflée pendant des mois.
Ça a été dur ?
Ouais, bien sûr. Ouais, c'était très dur.
Que tu te disais ?
Bah, t'es grosse, ma chérie, c'est pas grave, mais je me sens pas bien dans ce corps-là. Tu vois, il y a des nanas qui sont en chair, elles adorent ça. Il y a des nanas qui sont maigres, elles adorent ça. Moi, j'aime être mince. Mais tu vois, même ça, tu vois, tu dois toujours t'excuser de le dire.
Mais ça, disclaimer important, parce que tu vois, je prône la body neutralité, donc le fait qu'en fait, on est bien plus qu'un corps, mais c'est vrai que souvent, il y a encore un écueil, mais c'est comme, tu vois, le fait de se pimper ou quoi, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a été beaucoup à dire sur les réseaux, en fait, on a le droit d'être grosse, et il n'y a pas de hiérarchie entre les corps, que ça veut dire qu'on rejette le fait que des filles veulent être minces.
Enfin, exactement.
Un jugement ne doit pas en remplacer un autre.
C'est pas superficiel, c'est-à-dire que j'ai toujours été mince toute ma vie, donc c'est mon corps.
Voilà, c'est comme ça que toi, tu te sens bien et on ne doit pas le juger plus qu'une femme qui dit qu'elle est bien parce qu'elle est grosse.
Enfin, exactement, tu vois. Si t'as envie d'être bien en chair, tu restes bien en chair. Il y a personne qui doit... En fait, si toi, t'es bien dans ton corps, on va le sentir de toute façon. Mmh. Tu vas comment dire, dégager ça.
Ouais,
quoi.
C'est ça, c'est vrai.
Ah ouais. Et moi, je suis bien quand je suis mince. Hein, mais je suis bien, ça, tu vois, je me plains pas. Mais je suis pas tonique, quoi. Après, je me plains, mais je ne fais rien pour. Hein. Enfin, j'ai pas le temps, en fait. Je suis vraiment... Je suis livrée à ma fille. Je me suis... Enfin, j'arrive plus à parler.
Tu te consacres à elle.
Je me consacre à... Mmh. Ouais.
Et ça, c'est pas bizarre. Enfin, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me fait peur, tu vois, en tant que passionnée par mes passions, qu'en fait, il y a un jour quelqu'un qui arrive dans ta vie et ça devient le centre de ton univers.
Je trouve ça génial.
Et ouais. Tu sais pas, t'as pas eu du mal à endosser ce nouveau rôle et cette nouvelle identité?
Eh ben jamais, parce que j'ai toujours voulu avoir un enfant, même plusieurs. Hein. Bon, là, je sais pas si j'en aurais beaucoup, mais déjà, on m'a dit que je pourrais pas en avoir. Donc déjà, de l'avoir elle et naturellement, c'est déjà énorme. J'ai tellement, pour moi, c'était un rôle que je voulais tellement avoir que c'était normal. Et je pars du principe que quand t'as un enfant, tu dois être dévoué. C'est mon point de vue, bien sûr. Hein. Évidemment, c'est après, dans ma créativité, tu vois, même là encore, comme je suis... Vraiment, mon cerveau, il est connecté à elle. Donc, tout est plus dur. Tout. Que ce soit en musique, en humour, tout est plus dur. Tout est différent. Tout a changé.
Pourquoi c'est plus dur?
Parce que mon cerveau, il n'est que pour elle.
Ouais, c'est la charge mentale, entre guillemets.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'à elle, je vis que pour elle. Je fais tous ses plats maison. Tu vois, qu'elle soit bien, toujours bien propre, ses petites crèmes, son petit machin, le petit truc à sa taille et tout. Enfin, c'est que elle. Mais ça me plaît. Mais en même temps, là, comme je suis dans une phase un peu de créativité, je suis en mode, ah, tu morfles un peu. Mais je pense que c'est un processus normal. Mais oui, oui. Évidemment, quand t'es une passionnée comme moi, ça peut paraître terrifiant, mais en fait, pas du tout. C'est merveilleux de justement pas... Les artistes, on est trop égocentrés. Enfin, c'est assez insupportable. On est toujours en train d'être... on est névrosés, on est que sur nous. Et au final, d'être sur quelqu'un d'autre, c'est génial. Parce que du coup, tu t'es un peu moins angoissé. Et après, c'est un équilibre, mais que j'ai pas encore retrouvé, que je vais trouver. C'est tellement génial. T'as une descendance et en plus, c'est merveilleux. On t'aimera jamais comme un enfant peut t'aimer. Jamais. Jamais, c'est fou. C'est fou, la pureté dans son regard. Elle a que 17 mois, des fois, elle me regarde, elle me fixe. Donc ça, déjà, c'est un truc de quand ça grandit un peu. Elle regarde et d'un coup, elle se penche pour m'embrasser sur le front. Elle est comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vas me briser le cœur d'amour. Tu vois, c'est fou. C'est fou, tu sais, avant, avec mes vidéos, je me moquais des mamans, mais gentiment, toujours. Après, il y a toujours celle en premier degré. Mais tu vois, sur le caca, l'odeur, le machin, le truc, j'aime, elles nous emmerdent avec tous leurs trucs. Je suis exactement pareil. En fait, toutes les mamans, on est gaga. C'est vraiment... Je souhaite vraiment à toutes les femmes qui veulent être mères, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Hein. Je ne comprends pas, mais je respecte. Tu vois, parce que c'est vrai qu'en fait, je pense que si elles étaient mères, elles se rendraient compte de se dire « Mais pourquoi j'avais dit ça avant ?» Parce que j'ai une amie qui ne voulait pas être maman du tout, qui n'aimait même pas trop les enfants. Et je lui dis, mais en fait, dans mon ressenti, dans mon hypersensibilité, je lui disais « Mais c'est impossible. » En fait, je disais, en te voyant, t'es forcément maman. T'es trop pure pour pas avoir...
Pour pas connaître cet amour-là.
Ouais, c'est
quoi.
Pas possible. En fait, je sais que... Voilà, elle a vécu des choses difficiles. Je pense qu'elle a aussi des traumatismes qui font que... Et un jour, elle me dit « Non, mais j'en aurais pas. » Et je lui dis « Tu racontes ta vie, ça se trouve, dans un an, t'as un gosse. » Un an après, elle avait un enfant. C'était pas prévu, il n'y avait pas de truc. Et elle me dit aujourd'hui « Mais qu'est-ce que j'aurais fait sans elle ?» Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'en veulent pas. Et je comprends, je respecte. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont vécu des choses et qui se sont murées derrière ça. Et pour moi, non, en fait... j'ai ce truc-là de petite fille, en fait. Pour moi, une femme, c'est ma... Ça doit pas, enfin si, pour moi si. Alors que non, hein, tu veux pas, et je respecte, hein, vraiment. Mais c'est tellement merveilleux. Franchement, après je comprends, il y a des gens qui veulent pas abîmer leur corps, qui veulent pas se dire j'existerai plus, je dois donner ma vie à quelqu'un d'autre, c'est vrai, hein, tu dors plus, enfin ça. Tu vas te réveiller pendant plusieurs années à 7h du matin, quoi, tu vois. C'est sûr que ça, c'est le pire truc. J'avoue, c'est le seul truc. Tu sortiras pas, toi, ce soir, ma fille. Mais c'est trop beau. Quand tu vas grandir, t'auras ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Je trouve ça génial. Moi, c'est le seul être qui va pas te trahir, qui t'aimera toujours, peu importe ce que tu fais. Vraiment, c'est génial.
Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, d'être mère? Ça m'a appris que je suis assez incroyable.
Non, non.
Ça, mais... tu le savais déjà.
Non, non. Non, ça m'a appris que je suis une bonne maman, en fait. Je pense que j'ai tout l'amour que j'ai envie de donner depuis toutes ces années. Bon, je le donne à l'homme de ma vie. J'espère que c'est lui. Hein. L'homme que j'aime, mais vraiment beaucoup plus à ma fille. C'est tout l'amour, les bisous que je veux donner en permanence. Même si ça la gonfle, bah, elle les prend quand même, quoi. Enfin, tu vois, les bisous, les câlins, je lui parle, je lui dis à quel point je suis fière d'être sa maman, qu'elle est incroyable. Enfin, c'est vrai, en plus, elle est maligne déjà. C'est angoissant. 17 mois, elle n'a même pas 2 ans de vie. Tu vois, c'est genre, elle voit tout, elle regarde tout. Je la vois au parc et je vois toutes les autres petites filles de ses mois. Donc, elle a 1 an et demi presque. Et elle parle pas, et elle, je la vois parler, elle regarde les oiseaux, alors que tu sais, elle court. Enfin, tu vois, elle est un peu. Enfin, elle est. Je crois que je suis dans la merde. Elle est hypersensible, je crois, elle est comme ça. Si c'est une artiste, je suis vraiment dans la merde.
Pourquoi ?
Bah, parce que je vois ma mère avec moi. Bah, je suis dans la merde, hein. Elle va vouloir faire tout. Ah, bah, je vais la ramasser un peu, quoi.
Qu'est-ce qui te fait peur dans l'hypersensibilité pour elle ?
Bah, tout. Tout va la toucher, les gens comprendront pas. Tout. Mais bon, je vais la préparer. Enfin, je ferai ce que je peux, quoi.
Ouais. Pour lui dire, comment on prépare quelqu'un à la vie ?
Je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Et surtout, pas mentir. Même quand c'est des enfants. Tu vois, le truc qu'on nous faisait, oui. Oh, bah, tu vois, papy, il est parti au ciel. Ou... Non, papy, il est mort, en fait. Il ne faut pas dire comme ça. Mais non, papy, il est mort, il a crevé, en fait.
Il y a plus
un arrêt cardiaque. Plus de papy, ciao. Non, mais dire, en fait, voilà, il y a la vie, il y a la mort. Et il faut expliquer les choses. Et je pense que les enfants sont bien plus intelligents que les adultes. On les fait passer pour des niais, mais en fait, il faut les préserver, les protéger, mais il faut leur dire la vérité. Déjà, ça, c'est déjà quelque chose de pas mal.
Sur quoi on t'a menti quand t'étais enfant qui t'énerve ?
Ah bon, c'était pas un mensonge. Je sais pas.
Le Père Noël ? Ouais, le Père Noël. C'est dur. Hein.
Ah, la trahison. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en plus, c'est mon cousin. Oui, enfoiré.
on se sait.
Mathias, on le sait. Qui un jour m'a dit, mais tu sais, parce que lui, il avait su, il voulait pas être tout seul.
Ah ouais. Dans sa merde.
Et il m'a dit, non mais tu sais, il n'existe pas le Bernard. Je dis, bah si. Il m'a dit, bah non, en fait, dans ton KGB, tu vois, dans ton KGB chez toi. Et bah va voir, bah, t'as vu tout ce que t'as commandé. Voilà. Je me souviens que j'avais commandé une poupée qui faisait dans ses cheveux de la pâte à modeler. Ouais, de la pâte à modeler.
Ouais.
Je me souviens de ce truc.
Je me souviens.
Et du coup, je suis allée voir. Et il y avait cette fameuse poupée. Et j'ai dit à ma mère, tu m'as trahi.
Ouais. C'est dur.
Mais j'y ai cru en plus très tard. Ça, et moi, par contre, ça, j'avoue que je pourrais pas faire autrement, mais la petite souris, c'est beaucoup trop mignon. Parce que la petite souris, ils zappent. Et un jour, ils ont 15 ans et tu dis, au fait, la petite souris, bah, elle n'existe pas. Bon, ça va. Tu vois, mais le Père Noël, il y a un truc un peu traître.
Bah ouais, en fait, je pense que c'est la désillusion aussi d'un monde magique, meilleur, qui existe ailleurs, tu vois.
Tu le vois avec son traîneau, comme ça, s'envoler.
Il vole, tu vois, c'est un truc réalisé qu'en fait, personne ne vole, c'est un peu dur.
Personne
n'a de super pouvoir.
À part les gens qui se droguent à haut niveau.
Voilà, drug is bad for you kids. Voilà, disclaimer.
Oui, c'est vrai, c'est mauvais.
C'est mauvais.
Et tu ne voleras pas.
Voilà. Sur quoi ? Parce que je trouve que tu as travaillé sur beaucoup de névroses,
oui,
et de traumatismes. Ouais. Bravo, déjà.
Merci.
Qu'est-ce qui te reste à travailler que tu n'as pas encore guéri ?
Beaucoup de choses encore, en vrai. Je vais beaucoup mieux sur plein de choses. Mais en fait, je pense, le fait, tu vois, on en parlait au début, mais de ne pas accepter... en fait, c'est un peu, ça va être contradictoire, mais moi, quand j'aime, je te dis, j'aime vraiment et sincèrement. Et le fait que les gens ne soient pas comme moi, ça me fait beaucoup de peine. Tu vois, qu'ils ne m'aiment pas au même niveau, etc. Et en fait, j'en avais parlé avec plein de gens, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un, ou même la personne en face de toi, elle n'est pas forcément dans la capacité humaine et même dans sa sensibilité de t'aimer comme toi tu l'aimes, et d'être fidèle comme toi tu l'aimes, et d'être généreux comme toi tu l'es. Tu vois, et il faut que je l'accepte. Et c'est un truc que je n'arrive pas encore à... Je trouve ça dégueulasse, en fait. Je trouve ça injuste. Et c'est un truc qu'il faut que je soigne, enfin, tu vois. En fait, ils t'aiment pas. Sincèrement, ils t'aiment pas sincèrement. Ou elles non, ou elles. Tu vois, j'ai plein d'amis que... C'est des gens que j'aime encore, tu vois.
Et tu penses que c'est une question d'amour ? Je me demande si c'est pas juste une question, comme tu le disais, de...
Capacité.
En fait, ce n'est pas parce qu'ils ne manifestent pas l'amour de la même façon que toi, tu le manifestes, ou que toi, tu l'attends, que cela signifie qu'ils t'aiment moins.
Mais pour moi, quand même, quand t'aimes, tu manifestes un peu, hein.
Ah mais bien sûr qu'il manifeste un peu, mais il y a une différence entre manifester un peu, ce qui est genre, faut avoir des standards les gars, ouais. Il est meuf, mais il y a aussi, en fait par exemple, ce qui toi te paraît hyper important, j'en avais parlé parce qu'avec mon ex pour le coup c'était un truc genre, moi la solidarité c'est un truc mais ultra important, genre ouais. Excessivement tu vois, Et donc, en gros, il est refusé un moment de prendre mon parti. En fait, je l'ai quitté.
Pour ça.
Ah ouais. Je lui dis, mais en fait, c'est une honte.
En même temps, je peux comprendre.
Voilà. Et en fait, on s'est remis ensemble parce que j'ai fait un travail sur moi. Parce qu'en fait, il m'avait tellement montré qu'il m'aimait par d'autres façons.
En fait, il avait le droit de ne pas être d'accord.
Que voilà. En fait, il avait le droit, pour lui, juste de ne pas vouloir prendre position. Et ça ne remettait pas en question l'amour qu'il me portait. Alors que moi, je l'avais pris comme un... en fait, t'es même pas capable de me défendre. Enfin, genre, c'est en dessous de mes standards. Ciao, tu vois.
Ouais, je comprends. Et en même temps, ouais.
Et en fait, juste, on a un fonctionnement différent. C'est-à-dire que moi, quand j'aime quelqu'un, je vais prendre sa défense, quoi qu'il. Genre, mes meilleurs potes le savent. Je suis vraiment le genre...
Bah, oui, mais par exemple, tu vois, mon mari, il m'aime. Il va me défendre coûte que coûte s'il y a quelque chose. Mais par contre, en privé, il va me faire la misère.
Ouais, tu vois.
Il va me dire, non, mais attends, t'as vraiment merdé, mais je t'ai défendu parce que, bon, par exemple, il n'y a pas eu trop d'occasion parce que je me suis quand même, tu vois, assagie. Mais en fait, en général, j'ai rarement tort, c'est pas de la prétention. Mais en fait, le problème, non, mais je te jure que c'est vrai, c'est que je ne sais pas l'exprimer. Donc c'est là qu'on peut dire que, ouais, putain, elle est impulsive, elle est comme ci, elle est comme ça. En fait, comme je te dis, je ne sais pas m'exprimer en parlant, et ben, ça peut être un peu agresse parce que je suis très, très blessée, tu vois. Et donc, comme je ne sais pas m'exprimer, heureusement que je suis avec quelqu'un qui est un hypersensible aussi. Donc, lui, il sait exactement le moment où ça monte, où comme je ne sais pas m'exprimer, alors que je n'ai pas tort, il va me dire, tu te tais, attends, laisse-moi, t'inquiète, on va régler ça, on va canaliser le truc.
Donc, il faut trouver quelqu'un qui arrive à nous comprendre sans qu'on ait à s'exprimer, quoi.
Ah bah oui, oui, quelqu'un de protecteur, quand même. Mm. Parce que ça, c'est ce qu'il me fallait, quand même, dans ma vie. Ce besoin de protection, il est quand même, avec ce vécu, important. Mais... Non, je pense que c'est, voilà, je dois travailler ça. Je dois travailler... Enfin, le fait d'accepter que les gens ne sont pas...
Ce que t'aimerais qu'ils soient.
Ouais. Bah oui, c'est même pas normal. J'ai pas imposé ça, même si je pars du principe que... Après, aujourd'hui, je m'en fous. Moi, j'ai mes amis de toujours qui m'aiment toujours et qui sont toujours là. Et c'est des amis, je te dis, de plus de 25 ans. Ce sont les vrais, ceux qui me connaissent, qui m'ont vu dans tous mes états, heureuse, malheureuse, alcoolisée, énervée. J'ai jamais fait semblant de rien, tu vois. Mais il y en a d'autres aussi qui ont vu ces phases-là et qui sont quand même... Mais c'est comme ça. Mais il faut que j'accepte, tu vois, ça, ça va venir. Ça y est, j'approche de la quarantaine. Mais ça fait toujours du mal parce que moi, je suis pas comme ça. En fait, c'est parce que je suis pas comme ça, je pense. J'essaye. Ouais. Faire semblant, mais je sais pas, j'arrive pas.
Mais ce qu'il faut, je suis pas sûre qu'il faille.
Non, j'arrive pas. J'essaye de faire semblant, de dire, on va essayer de bonjour. Non, je sais pas faire. J'arrive pas.
Est-ce qu'avec le recul... Dans les périodes de ta vie où t'as vraiment été malheureuse, t'arrives à identifier des schémas ou les raisons qui conduisaient à ce malheur?
Je pense que, comme tu dis, peut-être que déjà très jeune, mais j'ai pas été détectée hypersensible, mais c'est vrai que... Déjà, mes parents, ils ont divorcé, j'étais très jeune. Donc déjà ça, premier truc qui m'a un peu traumate. J'avais genre 10 ans et demi, 11 ans.
Ah ouais.
J'avoue que ça, c'est...
Tu t'y attendais pas du tout, bah, disons ça, de toute façon, on peut rarement l'anticiper. Hein.
Bah, même s'il y avait des disputes, il y en a eu des grosses, mais je pense que les principales n'étaient pas devant moi. Mais quand ma mère m'a dit je veux divorcer, ça j'avoue que je ne m'attendais pas. J'ai pris comme une grande trahison de ma maman, alors qu'en vrai, juste quand t'aimes plus, faut avoir des coronaises quand même, ou des ovaires bien solides pour quitter quelqu'un. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours été, en fait, comme j'ai ce truc d'hypersensibilité, tout a toujours été décuplé. Donc, quand j'étais triste, j'étais terriblement triste. Quand j'aimais, c'est ridicule en vrai, mais soit en primaire, au collège, quelqu'un secrètement. Moi, j'ai jamais été la jolie fille. J'étais toujours la. J'en parle dans mon spectacle en humour, même si. Ça y est, maintenant, il a 3 ans, mais. C'est que j'étais une mi-moche. Tu vois? C'est-à-dire que je peux à la fois être très fraîche et à la fois, bon, je suis normale, quoi. Tu vois? Je suis basique. Et si tu veux, toutes mes copines, moi, j'étais donc très maigre et, tu vois, très. Très petite, pas de poitrine, etc. Et toutes mes amies, en général, c'était des bombes atomiques, avec déjà des formes, la poitrine, machin, et tous les beaux gosses, machin, ils allaient vers elles. Et en fait, comme moi, j'étais la drôle, parce que c'était ce qu'il me fallait pour exister, et à la fois, je me protégeais, je me cachais derrière ça, du coup, aucun mec n'aurait pu se douter, en tout cas, aucun jeune garçon aurait pu dire « elle est amoureuse de moi », et j'aurais jamais osé, parce que j'aurais eu trop honte, de me dire, putain, il va dire qu'est-ce qu'elle veut, la mimoche, là. Enfin, tu vois, c'est pas ça, mais peut-être pas en vrai. Peut-être que aussi j'impressionnais parce que je faisais rire, on se disait, je veux pas aller vers elle, mais non, j'étais pas ouf en vrai. Non, mais c'est vrai que. Je sais pas.
Là, j'adore, il y a aucun rapport avec la question.
Non, mais ouais, alors c'est normal, je fais ce qu'on appelle des.
Digressions.
Ouais, et en fait, c'est un peu des trucs de surefficient. C'est en ça que je dis hypersensible, et du coup, tu vas me poser une question.
Mais du coup, ces périodes-là où tu étais heureuse, c'est quoi? Pardon, ces périodes où tu faisais rire? Ou au contraire, t'étais malheureuse et tu camouflais avec...
Les périodes... Oh là, mais en fait, il faut que tu me donnes un... Dans le temps petite, jeune...
Eh bien, j'ai envie de dire...
Moi, donne-moi une...
Ouais, ça, j'ai envie de dire la période...
Sinon, moi, mon cerveau, il va trop loin.
Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de dire la période entre 19 et 30 ans.
Ah ouais, là, non, non, alors là...
La vingtaine. Tu sais, je trouve que c'est une période très difficile où t'es un peu jetée dans la nature en mode, ça y est, tu es adulte, bonne chance.
Non, alors depuis les violences, non, heureuse, non. Non,
t'as jamais été heureuse?
Non, je pense que j'avais l'impression parce que je riais, j'étais avec mes amis, je faisais des trucs, mais je me suis rendu compte que j'étais heureuse quand j'ai rencontré mon mec et que j'ai eu ma fille. J'ai dit, ah, c'est ça le bonheur, en fait, c'est ça.
Donc en fait, ça fait 2 ans.
Ouais. Ça, je le dis. Je le dis pas mal. D'être vraiment heureuse, quoi. Mmh. C'est la vraie définition du bonheur.
C'est quoi?
C'est de recevoir beaucoup d'amour, du vrai, et d'en donner à des gens qui te le rendent. Mmh. Donc c'est ce dont on parle depuis le début.
La réciprocité.
La réciprocité.
Et... Qu'est-ce qui t'a fait tenir alors, tout ce temps?
Mes amis, ma famille, j'ai toujours aimé faire rire, et puis mon public surtout. Mmh. Parce qu'on n'en parle pas là, mais c'est ça me fait rire quand je reçois des messages, ça me fait sourire. Ouais, tu m'as sauvé, tu me sauves, merci. Mais eux m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est pour ça que je faisais beaucoup de vidéos avec les gens, que je suis montée sur scène, que... ouais, en fait, donc je te mens là, parce que le seul endroit où j'ai toujours été heureuse, c'est quand j'étais sur scène. Avant, après, jamais. D'ailleurs, les gens avec qui je travaillais à l'époque, il y a eu Laurent Ginca, donc avec qui j'ai coécrit tout mon premier spectacle, et Suzy Perrier, elle était. Elle faisait tous les rôles, la pauvre. Elle était à la fois régisseuse avec moi, mais assistante et surtout confidente, c'est devenu mon amie ensuite. Et c'est vrai que je les faisais souffrir, parce que j'étais tellement malheureuse. Ils me voyaient bien que sur scène, et donc avant, après, puis je buvais, donc ça n'aidait pas. Mais c'est une période où j'étais... je sais que la pauvre... je m'en suis rendu compte bien plus tard, hein, tu vois. Elle s'adaptait un jour sur deux à mes humeurs parce que j'étais angoissée, parce que j'étais pas bien, parce que j'étais épuisée, parce que déjà j'avais un gros trac avant de monter sur scène. Et c'est vrai que j'étais dure. J'étais pas méchante, mais j'étais très, très dure. Déjà dans le travail, je rigole pas du tout. Ça, je suis une grosse exigeante. Mais tu vois, c'est quelqu'un... D'ailleurs, je lui ai envoyé un message à cette Suzy il n'y a pas longtemps, parce que je l'aime vraiment beaucoup et elle va être maman. Donc c'est un truc qui m'a touchée de l'avoir connue plus jeune, de l'avoir connue avec son compagnon qui est encore... qui sera le papa de son enfant. Et d'avoir su ça. Et du coup, elle m'a envoyé une photo enceinte. Enfin, c'est comme une sœur. Ça m'a touchée. Je parle d'elle parce que vraiment, elle m'a vue vraiment, elle, dans des états terribles de tristesse, de crise d'angoisse. Je me souviens d'une fois où j'étais tétanisée et puis fatiguée parce que je travaillais quand même sur scène. J'étais 6 sur 7. Enfin, j'ai fait beaucoup de surmenage. Je travaillais beaucoup. Parce que, comme je te dis, c'était le seul endroit où j'étais heureuse, en fait. Parce que je me suis dit, il y a quand même des moments, quand même, oui, sur scène. Et je me souviens d'une fois recroquevillée où elle m'a pris comme ça dans ses bras. J'étais en tétanie, elle ne m'a pas lâchée. Enfin, il y a eu plein de moments. Non, les gens, ils ont morflé. Enfin, J'ai quand même fait souffrir des gens, même Laurent, hein, avec qui je travaillais longtemps. On se parle plus là pour plein de raisons personnelles. Mais ce sont des gens qui m'ont vu souffrir, qui m'ont vu réussir, mais qui m'ont jamais vu très heureuse.
Il y a un concept en spiritualité qui est la nuit noire de l'âme, qui est en gros le jour le plus sombre que presque tu dois vivre pour pouvoir... renaître ou connaître l'éveil.
Ah, je le connais, moi, ce jour.
C'est quel jour?
Il est dans le livre, d'ailleurs. C'est vraiment le jour où je buvais tellement tous les jours que d'ailleurs, je ne répondais plus à ma maman parce que j'avais honte de lui dire que je travaillais plus depuis 2-3 mois. Tous les 15 jours, j'avais des angines blanches parce qu'en fait, mon foie, il pourrissait, quoi, très clairement. Et donc, j'avais plus d'argent. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein, c'est
de stress.
Ouais, ouais, bien sûr, de nervosité. Mais... j'avais rien dans le frigo, enfin, c'était vraiment une galère. J'avais un pote qui m'avait payé un plein de courses une fois, j'ai honte de... Je suis encore en contact avec ce genre de personne qui, lui, par exemple, je peux le voir tous les 5 ans, ça ne change pas. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui prend toujours de mes nouvelles. Voilà, c'est quelqu'un
en vrai.
Ah oui, mais surtout d'acheter à manger à quelqu'un, c'est, je trouve, le truc le plus humiliant. Pour moi, hein, qui ai vécu ça. Ça m'a marqué. Et puis je laissais les poubelles. Moi, je suis une grande maniaque. C'est pour les gens qui me suivent, ils me connaissent. Je suis très organisée, très rangée. Tout est très rangé, tout est très propre. Et donc, du coup, il y avait des poubelles qui traînaient. J'avais de la vaisselle moisie. Mais d'ailleurs, je le dis dans l'évier depuis 3 mois. Et en fait, ma mère a sonné très tôt un jour. Je dis, qu'est-ce que c'est là, 7h du mat? parce qu'elle a dû sentir comme toutes les mamans. Et elle a vu tout ça, elle m'a dit allez hop, on rend l'appart, tu reviens à la maison et on va te guérir ma fille. Ça c'était le jour le plus sombre de ma vie, donc rapport à ce que tu me dis,
ouais.
Que j'espère ne plus jamais vivre.
Comment on remonte la pente?
Maman. Ma maman. Ah ouais, bah oui.
Qu'est-ce que tu aurais fait si ta maman n'avait pas été là?
Eh bah je sais pas. Je sais pas si j'aurais fait déjà. En fait, c'est fou parce que moi, je suis pas une nature fragile. Je suis une hypersensible, donc ça aide pas, mais je suis pas fragile. C'est-à-dire, je suis pas suicidaire, j'ai jamais eu d'idée. Mais par contre, je me serais laissée aller. J'aurais pu mourir de tristesse ou d'une. Parce que je buvais trop, parce que. Tu vois? Je pense que, ouais. Donc, c'est vrai que dans toute cette période, ce qui m'a sauvée, c'est le rire aussi, tu vois. C'est pour ça que quand j'ai fermé cette boucle, j'avais besoin d'aller en musique aussi pour pas continuer dans ce truc-là. Parce que c'est l'humour avant. Déjà, le travail, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, avant la scène, c'était tellement de souffrance. Tu sais, c'est dur d'aller faire rire des gens. Les gens pensent que c'est comme ça, même en travaillant beaucoup. Hein.
Comment t'es sortie de l'alcoolisme?
Bah, écoute, je pense qu'après, comme je suis pas quelqu'un de fragile, justement. Quand je me suis rendu compte que... Bah, en fait, c'est le fait de boire beaucoup trop, tu vois. Parce qu'en vrai, un verre ou deux, c'est sympa.
T'arrives là à te...
Ouais, oui.
Parce que j'ai reçu Jérémy Ferrari sur le podcast, je vous invite à écouter l'épisode. Il a été très transparent, je le remercie encore. Il s'est totalement livré sur ce qu'il a traversé. Et lui disait, bah non, en fait, moi, c'est plus jamais de ma vie, je touche à une goutte. Parce que...
Oui, je comprends.
Voilà, je pense que ça dépend.
Après, mon but, c'est de plus boire du tout dans ma vie, mais ça viendra, tu vois. Mais là, par exemple, je bois une fois par mois deux verres.
T'arrives à maîtriser
Ouais, enfin, c'est pas du tout... Avant, c'était une priorité, enfin, dans tout. Puis comme je te dis, j'ai une petite fille, j'ai envie qu'elle ait une maman qui soit saine. Donc c'est pas... tu vois, là, j'ai pas vu depuis, je sais pas, deux semaines, trois semaines. Enfin, j'ai pas... Je compte parce que c'est un réflexe, mais j'ai pas le truc de...
T'as pas l'addiction, quoi.
Bah, j'ai plus l'addiction. Je pense, hein. Enfin, j'espère, tu vois. Je pense, parce que sinon, je boirais.
Et comment t'as fait pour t'en détacher de cette addiction? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta mère vient te chercher, qu'est-ce que tu fais? T'arrives à devenir sobre du jour au lendemain?
En fait, comme je suis chez ma mère, bah, du coup, ouais, j'ai pas le choix. Hein. Il y a déjà que ma mère... Enfin, moi, j'ai mes parents, même mon père, enfin, personne ne boit. Hein. Chez nous, il n'y a pas ça. Il y a même la clope, tu vois. Il n'y a pas de tout ça. Donc, je suis chez ma maman. Et surtout, en fait, ce qui m'a fait... J'en parle dans le livre, un grand déclic, c'est que... En fait, moi, j'allais donc chanter le soir parce que bon, j'étais malheureuse et j'ai jamais chanté à jeun dans un piano bar où j'étais toujours un peu empégée, comme on dirait à Marseille. Et je me souviens d'un jour où donc je suis retournée chez ma mère et je commence à buzzer avec mes vidéos, tu vois. C'est à ce moment-là que ça vient. Alors j'attendais ça depuis tellement d'années. Et puis j'en profite justement pour montrer que je chante et je fais un concert au réservoir. Bon, il y avait une centaine de personnes qui étaient là. Et j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Michael et j'ai une montée d'angoisse, parce que je dis, attends, en fait, là, ça fait quelques jours que j'ai pas bu, du coup, et je ne vais pas y aller à jeun, en fait. Je peux pas monter sur scène à jeun. Donc je lui dis, trouve-moi un shot, dans le bar. Il me dit, je te trouve rien du tout, pas du tout. En fait, j'étais en train de faire une crise de manque que je n'avais jamais vécue, en fait, parce que j'avais jamais été dans cette situation, puisque pour moi, c'était, voilà, j'avais pas de moment où il y avait pas, quoi. Il m'a dit, je n'en donnerai pas, je te trouverai pas ça. J'ai dit, bah si, sinon je peux pas. Et j'étais en sueur froide, comme en malaise vagal, sur une chaise, je me souviens toute ma vie. Il me faisait de l'air, il me dit, je vais te faire de l'air, tu peux vomir ce que tu veux. Et j'avais des nausées de comme si j'avais bu, c'était horrible. Et j'ai dit, mais je vais pas arriver. Donc je suis descendue, et c'est fou d'ailleurs, moi je suis très croyante, hein. Moi je crois en Dieu. Et au bar, alors que la salle elle est bondée, il y a personne à ce moment-là. Et je dis, j'ai trouvé moi quelqu'un. En fait, c'est pas possible. Et en fait, je me rends compte que ma jambe droite tremble. Mais genre... vraiment comme quelqu'un d'alcoolique, hein. et en fait j'avais un clavier, donc je faisais un concert au piano d'une heure et j'ai demandé à ce qu'on me mette un espèce de voile en tissu pourri mais noir, tu vois, pour cacher ma jambe, parce qu'en plus c'est la jambe droite, c'est la jambe de la pédale qui intensifie tu vois les notes. Et donc pendant une demi-heure, donc il m'avait caché le truc, donc déjà donc pour finir sur le truc du shot que j'ai jamais eu. Jusqu'à la dernière minute, il y a eu personne derrière le bar, donc je sais pas si quelqu'un avait dit quoi que ce soit ou, mais c'était horrible. Donc j'étais en bouche pâteuse, rien que j'en parle, j'ai la bouche pâteuse enfin tellement ça m'a terrifiée de me rendre compte à quel point j'avais été
addict.
C'est en ça que je te dis que ça m'a vite calmée, parce que pour moi, même comme je te dis, j'ai un mental qui est très solide, de me dire que je suis faible à ce point-là, c'était pas possible. Tu vois, la jambe que tu ne maîtrises pas.
Dépendante, ouais.
Non, mais surtout tu vois une jambe bouger, tu dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc?
Je vais pas demander de bouger, en
ouais,
fait.
En fait, c'est... Et puis, et tu sais que c'est ça. Parce que tu les as vus, les mecs dans les bars. Hein. Moi, j'ai travaillé en restauration. Donc, les bras qui tremblent, horribles, qui s'arrivent pas à calmer. Enfin, c'est horrible. C'est, tu dépéris, quoi. Tu vois, je me suis dit, t'es vraiment une merde, en fait. Enfin, c'est pas grave, mais c'est vrai. Et donc, j'ai joué pendant une demi-heure avec le pied gauche, donc personne ne voyait rien. Un peu compliqué avec la pédale de droite, mais je m'accompagnais comme ça, je suais, mais de souffrance. Je me suis dit, putain, t'arrives à faire ça. Et à la fin, donc, il y avait ma mère et ma marraine, et je leur ai dit, moi, je vais rentrer. J'avais envie de vomir, de. Tu sais, comme un sevrage, quoi.
Ouais.
Et là, j'ai dit, ah là là, t'es vraiment, t'as un gros problème, en fait. C'est de là que j'ai tout calmé. Il y a eu des soirées, évidemment, où je m'en mettais. Je m'en suis remise après, hein. Mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir.
Il y a eu un avant et un après.
Oh là là, mais c'est incomparable. Même ça se voit physiquement. Je fais plus jeune maintenant qu'il y a 10 ans. J'étais toute boursouflée. J'ai encore des vidéos où tu vois que je suis boursouflée de ça boit, quoi. Mmh. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte de me voir comme ça, tu vois. Et puis j'ai tellement tout enfoui, tout caché. Moi, j'ai toujours voulu qu'on me voie la nana hyper drôle, hyper... c'est de la protection, hein, parce que les gens sont méchants aussi. Mais tu vois, j'ai toujours voulu qu'on me voie drôle, quoi. Faire des conneries, faire des grimaces, enfin, tu vois, toute la journée. Je voulais que les gens soient heureux. Je me suis dit, s'ils sont heureux, bah, ça, moi, ça ira. Tu vois. Et au final, au bout d'un moment, ça te rattrape. Tu vois, nous sommes que des humains. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de tout dire. Tu vois,
et c'est comme ça que s'appelle le livre.
C'est comme ça que s'appelle le livre, ouais. Et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis très heureuse, je le redis. Et puis, je trouve que j'ai un devoir pour toutes ces femmes, jeunes, moins jeunes. Et c'est ces hommes qui ont vécu ces choses, que ce soit l'alcoolisme ou que ce soit les violences, les pervers, les moments de doute aussi dans leur travail, les moments très heureux. Parce que là où j'étais le plus heureuse dans ma vie, c'est quand mes grands-parents étaient vivants. J'étais une petite fille. Alors là, c'est là où j'ai été le plus heureuse. Ensuite, pas trop, mais que sur scène avec mon public. Et aujourd'hui, évidemment, avec mon mari, ma fille, et évidemment, chaque fois que je suis sur scène. Parce que c'est l'endroit où les gens me connaissent et là où je suis le plus à ma place.
Tu pleures plus de tristesse ou de joie ?
Aujourd'hui ? Oh, de joie. Oh, de joie.
C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ?
Il y a 2 heures.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, c'était plus un relâchement. Ouais, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Ouais, il y a 2-3 heures.
Pourquoi ?
Parce que c'est beaucoup quand même, tu vois, ce livre, cette sortie. Je dis beaucoup de choses et en fait, j'ai tellement parlé, je me suis dit, mais t'as pas lâché, ma fille ? Et donc, j'ai lâché. J'ai lâché pour pas lâcher. Tu vois, j'ai beaucoup pleuré, moi, en télé, en interview, etc. Donc, t'as les gentils qui disent « Ouais, c'est une hypersensible. » Puis moi, je dis « Je pleure. Mm. » Mais c'est vrai que trop pleurer aussi, c'est pas bon. Même si des fois, j'ai pas le choix. Donc, je me suis un peu endurcie. Voilà. Ouais.
C'est marrant. On sent que tu veux vraiment pas montrer de forme de vulnérabilité. Comme si c'était un aveu d'échec.
Tu m'as bien cernée, et pourtant, j'ai quand même dit et montré pas mal de choses. Mais oui, je me protège toujours derrière un truc.
Mais qu'est-ce qui te gêne dans la vulnérabilité ?
Le mot.
Le mot est moche.
En fait, je pense que c'est un truc lié, tu sais, tu vois, quand je voyais ma maman pleurer, ça m'a tellement fait de la peine sur des choses... tu vois, même quand elle est triste, ou même quand j'ai perdu mes grands-parents, de voir sa maman pleurer, qui perd ses parents, j'aimais pas, c'est horrible pour moi de voir ça. Et en fait, je pense que c'est un truc comme ça qui fait que... Alors que c'est super, hein, de pleurer. En plus, je suis vraiment culottée parce que tous mes proches ou les gens qui m'entourent, j'arrive à toujours leur faire sortir leurs émotions et les faire pleurer. Je dis, mais chiale, ça fait du bien et tout. Je suis vraiment une grosse hypocrite.
Les coordonnées sont les plus mal chaussées.
Ouais, mais j'aime bien aider, moi. C'est pour ça que je fais tout ça. Je le fais pas... Le livre, enfin, c'est pas pour moi, parce que comme je sais, pour ma fille et pour les autres, mais c'est plus pour les autres que pour moi, en fait. Parce que moi, ça y est, j'ai vécu tout ça, mais je me suis dit de le dire encore. Moi, je te dis, j'ai encore pleuré il y a 2 heures, mais c'est juste pour... Enfin, je sais pas. Je sais pas, j'ai évacué comme je pouvais, mais là, j'ai un devoir, quoi. En tant qu'artiste, parce que je suis pas psy, je suis pas politicienne, je suis pas coach. Et je vais bien, hein, parce que des fois, je reçois des messages de coach de vie. Non, mais tout va bien, les chéris. Je vais bien. Je suis très heureuse, tout va bien. Mais c'est vrai que oui, j'ai encore du travail à faire, mais comme tous les humains du monde. Hein.
Ouais.
Je trouve que ça va.
Ouais.
J'ai encaissé pas mal de trucs. Maintenant, laissons la place un peu au plaisir, à la joie, au bonheur, à l'amour. On est déjà dans un monde compliqué.
J'ai quelques dernières questions pour toi. Je me demande, entre la personne que tu es publiquement et la personne que tu es personnellement, est-ce que tu as l'impression parfois qu'on te perçoit différemment de ce que tu es ?
Bah, tout le temps, à part les gens qui me connaissent, qui me suivent. Oui, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi ?
Bah, je le dis beaucoup, mais je pense que je le dis beaucoup parce qu'on m'a pas dit de, on m'a pas laissé le choix. C'est que, en fait, je travaille tellement que ça se voit pas. Et du coup, ça m'a beaucoup parasité, surtout en humour. L'humour, c'est surtout, enfin, le mien, il est très populaire et je suis très fière de ça. Moi, je suis une banlieusarde, voilà, qui suis très fière de, voilà, je suis très fière d'avoir grandi à Vitry-sur-Seine et je suis vraiment une fille du peuple, quoi. Et ça me plaît. Sauf que dans certains métiers ou dans certains même professionnels du métier, en fait, ça m'a handicapé de que ça se voit pas. Tu vois, je sais pas comment dire.
On t'a jugé sans te connaître et sans savoir le travail que t'abattais, quoi.
À part les gens avec qui je travaillais. Et puis après, les gens se sont aperçus. Parce que quand tu vas voir un spectacle d'une heure et demie, quand même, tu te rends bien compte qu'il y a du boulot. Mais en fait, le travail, ça doit pas se voir. C'est en amont beaucoup, beaucoup de choses, mais ça doit pas se voir. Et ça m'a handicapé dans plein de choses. Je donne un exemple tout con. Et puis surtout, le fait que je sois toujours en train de rire avec les gens, tu vois, d'être détendu. Enfin, tu vois, ça, je sais que j'ai changé ça parce que du coup, j'en ai marre d'être trop gentil, généreux si c'est pour que derrière, on ça ne convienne pas, c'est agaçant. Et je te donne un exemple. Donc, ce producteur m'excusera. Hein. C'était un directeur de production au cinéma. J'ai joué dans un film qui s'appelle Brillante. Ce sont des femmes de ménage qui ont des vies particulières. Et d'ailleurs, je suis enceinte à ce moment-là et je ne le sais pas. D'ailleurs, c'est fou. Et je pleure avec Céline Salette, que j'adore et que j'embrasse. Je dis à Céline, tu sais, j'aurais peut-être jamais d'enfant, c'est horrible et tout. Et je suis enceinte à ce moment-là, c'est fou. D'ailleurs, bon, bref, c'est ce petit aparté. Bon, c'est-à-dire que je pleure et je suis enceinte. C'est du génie en vrai. Mais bon. Et du coup, sur ce film, j'ai une scène où je dois jouer un moment où je suis bourrée. Okay. Et donc, je préviens toute l'équipe. Même s'il si s'installait, il faisait une mise en place, et je dis, je vais déjà rentrer un peu dans la phase où je connais bien, hein, c'est un état que je connais bien. Et donc, juste, j'avais des clopes à fumer, mais j'ai dit, je suis désolée, je vais les fumer déjà là, je vais me mettre, tu vois, dans un truc un peu de vraiment, je vais commencer à envoyer, quoi. Et donc, ça dure 10-15 minutes, tu vois, il s'installe. Je tourne une prise, deux prises, trois prises, donc je pleure en même temps, je dois tituber, je dois bouger, je dois me rasseoir, tu vois. Tout est... Et en fait... Le dire de prod va voir, je sais plus, la maquilleuse ou le coiffeur, enfin je sais plus, pour dire, elle a bu. En fait, derrière le combo, il a dit, elle a bu. Et donc moi, comme je suis quelqu'un qu'on aime bien quand même, elle vient me voir en me disant, tu sais que le dire de prod, il a pensé que t'avais bu. J'ai dit, mais c'est alors à la fois hyper flatteur,
ouais,
et à la fois hyper vexant.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je travaille, il faut toujours que ce soit autre chose. Et ça, c'est toute ma vie comme ça. C'est pour ça que ça a toujours été plus long, plus dur. Et c'est ce qui m'énerve le plus, tu vois. Et c'est ce que je trouve dégueulasse, que j'ai horreur de l'injustice. Et donc, je suis allée voir cette personne et je dis, dans ce sens-là, je vais te remercier. Elle me dit, mais pourquoi ? Parce que tu pensais que j'avais bu. Si tu veux, je peux te faire sentir mon haleine. Je dis comme ça, mais tu sais, très... Ah, il s'est mis dans un état. Qui t'a dit ça ? Il s'est mis à hurler. Je dis, mais t'énerve pas. Je dis, c'est pas grave. Et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de peine parce que...
C'est tenté du mérite, quoi.
Ça veut dire que c'est horrible. Je jouais tellement bien que pour lui, c'était pas possible. C'est ça, en fait. Et ça m'arrivait dans plein de trucs. Et c'est dégueulasse. Ça m'a fait beaucoup de peine.
Bah, le succès fera...
Ça veut dire, mon agent, elle était énervée. Je me souviens. Elle me dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont remarquer? C'est toujours ça. Mais je travaille beaucoup, mais c'est, je travaille pas quand j'arrive sur le plateau.
Le succès se chargera de faire du bruit.
J'espère bien, mais c'est vrai qu'en fait, moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup, mais il faut que mon travail paye, en fait. Tu vois, c'est juste ça. C'est ce qui me fait. Pas déjà avec tout ce que je fais, mais pas encore comme il se doit.
Okay.
Tu vois, je sens que c'est pas possible de... Quand on travaille, quand on travaille, on travaille pas sur un tournage, on travaille en amont. Donc quand je te donne quelque chose, je te le donne pour de vrai. J'ai pas besoin de boire un verre de whisky pour jouer la bourrée. Tu vois. C'est pas ce travail-là que je vais faire, tu vois. Ça m'avait marqué.
J'ai deux dernières questions. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que t'aimerais entendre ?
Bah du coup, tu m'as parlé de Jérémy Ferrari. Et du coup, pareil, tu vois, c'est marrant. Donc je connais l'addiction qu'il avait. Puis je sais que c'est quelqu'un de très franc qui parle beaucoup. Il m'avait invité, c'est peut-être il y a un peu moins de 10 ans, à l'Alpe d'Huez. Et en fait, je me souviens toute ma vie parce que en fait, je culpabilise encore. En fait, c'était l'époque où, en fait, tu sais, en humour, j'ai cartonné. Ça m'a un peu dépassé. Et je me faisais harceler. Puis tout le monde donnait mon numéro comme ça. En fait, dans ce métier, c'est un peu comme ça. On donne ton numéro et ça doit être normal, quoi. Moi, j'ai un truc de je suis hyper bien élevée. Donc, quand tu donnes mon numéro, mais tu me préviens pas, tu m'envoies pas un petit message, machin. Bon. Et j'étais tellement. Je me sentais tellement agressée. Et puis, j'étais, bon, comme tu dis, un peu en addiction, pas très heureuse, machin. Et un jour, il m'appelle. Il me dit allô ? Je dis allô ? C'est Jérémy Ferré ? Je dis oui. Je te dérange ? Je dis bah, je suis à l'Alpe d'Huez. Dis-moi. J'ai été hyper. Agresse, mais de protection. Mais comme je te dis, je sais pas m'exprimer, je suis une grosse conne. Et il me dit, ce serait pour faire un dos. Je dis, mais qui t'a donné mon numéro ? Il me dit, bah, je l'ai demandé. Je dis, pardon, peut-être fallait pas. Il a été hyper gentil en plus. J'étais une énorme merde. Non, vraiment, j'étais une énorme merde. Et parce que je souffrais, mais avec le recul, tu vois, j'aimerais bien le recroiser pour lui parler, lui présenter mes excuses. Pas d'avoir souffert, parce que je vais pas m'excuser d'un truc que j'ai vécu, mais en tout cas, de lui dire que vraiment, puis c'est quelqu'un de vraiment, c'est un génie, il me fait vraiment rire et aller à fois, il me touche beaucoup dans tout ce qu'il a vécu, vraiment, vraiment. On a des similitudes, ouais. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait chier. Je me suis dit, putain, un mec avec autant de talent, en plus, je travaille tellement que j'étais vraiment, tu sais, en surmenage, j'étais vraiment vidée, épuisée, j'en pouvais plus, et j'aurais adoré faire un sketch avec lui, quoi. Tu vois, donc je suis.
Et jamais trop tard.
Et jamais trop tard, mais c'est un regret que j'ai à ce moment-là. Tu vois, voilà, t'as été une petite conne. C'est bien de l'admettre, des fois.
Si tu pouvais entendre quelqu'un qui n'est pas encore venu sur le podcast. Mais je prends aussi.
Bah, c'est rigolo, mais bon, ça n'a rien à voir. T'as reçu Rebecca Zlotowski ?
Non.
T'as la même voix et t'as la même tessiture.
Ah, c'est vrai ?
C'est très troublant pour moi, parce qu'en fait, je me dis, je sais pas pourquoi, il y a un truc familier. Je lui dis, mais je t'aime déjà, mais je comprends. T'as la même tessiture et le même grain. D'intelligence aussi qu'elle a, parce que quand elle parle, elle a une voix très, comme toi, à la fois sensuelle et intelligente. C'est bizarre de dire qu'une voix est intelligente.
Mais je prends.
Bah oui, prends, mais c'est fou, t'as... Ouais, ce serait fou d'ailleurs d'avoir vos deux voix dans le...
Ok.
Bah, Rebecca Zlotowski, parce qu'elle a plein de choses à raconter. Okay. Et puis sinon, ma mère. Non, je rigole.
Ah, je vais le prendre au premier degré.
Non, je t'en supplie.
Oh, petite lettre demain.
Oh, non, l'enfer. Attends, je réfléchis quand même. Qui ça pourrait être d'autre ? Je réfléchis.
Tu vois, toi, quelqu'un que t'admires, qui t'inspire, dis, j'ai envie de tout savoir.
T'as reçu Gad ?
Ouais.
Ah bah oui.
Excellent épisode.
Bah évidemment.
Ouais.
Il parle trop. Il est, enfin, comme moi,
il est génial.
Bah oui, il donne tout. C'est un généreux.
Tu sais, il y en a un à qui j'ai pensé. Je sais que vous avez fait un son ensemble. C'est Grand Corps Malade.
Ah bah oui, mais vraiment. Bah
je l'ai pas reçu encore, et en vrai, je me dis...
J'ai même pas pensé, bah oui.
Ça doit être quelqu'un qui a vraiment une histoire, tu vois, et des... Est-ce qu'il est facile... Enfin, il est facile. Est-ce qu'on peut lui tirer les verres du nez, quand
non,
même ?
Non, pas trop.
Ah putain.
Non, c'est pas...
C'est un défi,
mais après, non, il te dira les choses. C'est quelqu'un de... C'est un gentleman, et puis il est bien élevé. Mais non, je pense qu'il... En plus, il a des livres. Il a plein de livres, il a plein d'albums, il a plein de choses. Non, mais c'est intéressant, en vrai. Je pense que t'as quand même une aura, hein, t'as un truc, mais non, il te dirait des choses, et ça dépend de... C'est un grand timide, hein. Il est très pudique, mais ouais, c'est pas con, okay. J'ai même pas avancé.
Et du coup, je vais te poser la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, comment dirais-je, se rendre compte de quoi on est capable, et que tout ce qu'on fait, c'est puissant, c'est bien, et avoir confiance en ce qu'on fait. Je pense que c'est clair.
Ouais.
C'est assez clair.
Il faut que tu l'appliques à toi-même, du coup.
Oui, bien sûr. Je savais qu'il y avait un truc qui n'était pas très cohérent dans
non,
ça.
Mais si, tu le sais en théorie, mais pas en pratique.
Oui,
quoi.
Je sais. Je sais beaucoup de choses en théorie. Ouh là, je suis un génie en théorie. Hein. En théorie, je suis vraiment un génie.
Ce sera ça le titre de l'épisode.
Ouais.
Camille Lelouch, je suis un génie en théorie.
En théorie. Ouais, non, franchement, c'était super.
Bah merci Camille, franchement merci c'était hyper chouette.
Ouais, trop bien.
Et j'ai vraiment aimé lire ton livre, honnêtement.
Ah,
je lis beaucoup et en fait j'avais pas envie de le poser. Quoi, je trouve que vraiment.
Tu vois, c'est le meilleur compliment, c'est ce que je te disais. Pardon, mais on m'a dit.
Ah ouais.
On m'a dit dans les messages que quand tu veux y retourner.
Ouais.
Mais ça c'est des livres, pour moi c'est des romans genre que moi j'ai envie de, genre de, ce que je disais, Joël Dicker ou moi Marc Lévy.
On a reçu Joël Dicker, si tu veux écouter, il est trop bien l'épisode. Oh là là. J'adore cet homme.
Ouais, bah, tu vois, bah c'est ça par contre, t'as envie de revenir.
Ouais, c'est ça. Et bon, avec la non-fiction, c'est plus rare. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Donc je redirige voilà tous les auditeurs auditrices, tout te dire aux éditions Stock.
C'est le meilleur compliment.
Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, si peut-être ils ne te suivent pas déjà, voilà.
Entre le podcast et le livre, je pense que derrière, vous savez à quoi vous en tenir.
Voilà. Je mettrai ton Insta dans les notes et puis j'espère à bientôt.
Ah ouais, à bientôt, grave.